Pendant que vous dormiez cette nuit, l'Amérique a emprunté 100 000 dollars par seconde. 100 000 dollars par seconde. Le temps que je finisse cette phrase, l'oncle Sam vient de s'acheter une Ferrari SF90 et le temps que je vous dise Ferrari SF90, il a pu s'acheter une douzaine de Rolex. Il y a deux jours, la dette fédérale américaine a franchi les 40 000 milliards de dollars. On en a parlé, 40 000 milliards, vous êtes au courant, c'est historique. C'est jamais arrivé, c'est le genre de truc qu'on mettra dans les livres. Ben non, en fait, on n'y mettra pas dans les livres parce que quand on passera les 41 000 milliards dans deux mois, tout le monde oubliera. C'est un peu comme sur les indices, hein. Qui se souvient encore du Dow Jones qui a passé les 10 000 points? Bon, mis à part moi qui dois encore avoir une casquette Dow 10 000 dans un de mes cartons post-divorce. Donc, 40 000 milliards, c'est pas rien. Et pourtant, le trésor américain a gâché la fête en faisant baisser les rendements, même si hier soir, c'était déjà oublié, et Bessent était à peu près aussi intéressant qu'une ancienne star de ciné qui a joué dans des séries B il y a 23 ans. Non, hier, le seul truc qui a vraiment intéressé Wall Street, c'était Walmart. 700 points de baisse dans les dents pour le Dow Jones, et le coupable officiel, c'est un hypermarché de l'Arkansas qui a vendu moins de médicaments que prévu. La dette à 40 000 milliards, elle a fini dans la rubrique chien écrasé, coincé entre la météo merdique de ce matin et les résultats d'un fabricant de tracteurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces deux histoires, la dette et l'hypermarché, c'est en fait exactement la même histoire un tout petit peu entremêlée. Et pourquoi la fin risque de ne pas forcément être drôle. Et non, non, je ne suis pas riche, j'explique. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le vendredi 21 août, je suis Thomas Veillet et ce matin, il pleut. On va parler d'une Amérique qui devait redevenir great again et qui pour l'instant est surtout redevenue endettée again. Au programme aujourd'hui, on va parler de la dette qui explose, bien sûr, un consommateur américain qui commence à serrer les fesses de plus en plus fort, tellement fort qu'il y a des courbatures en fin de semaine, un vaccin contre le cancer qui a fait s'effondrer les valeurs technologiques indirectement et un président qui fait du lobbying pour une loi dont il est le premier bénéficiaire. What a surprise! On y va tout de suite.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors 40 000 milliards, ça ne veut rien dire. Personne n'a aucune idée de ce que ça veut bien être. Moi non plus. Donc on va essayer de traduire. 40 000 milliards de dollars, ça fait 116 500 dollars par habitant. Homme, femme, enfant, bébé, né ce matin à Cleveland. 116 500 dollars de dette sur le dos immédiatement. Et si vous ne prenez que les gens qui payent réellement des impôts là-dedans, eh ben on monte à 360 000 dollars par contribuable. 30 000 milliards de plus qu'en 2008. Vous vous souvenez, 2008, le moment où tout le monde criait au scandale sur la dette américaine. Elle a été multipliée par 4 depuis, et plus personne ne crie. Ou alors, elle crie pas très fort. Mais c'est aussi 2000 milliards de plus que le 1er janvier de cette année. Depuis le 1er janvier, 2000 milliards. Faites le calcul avec moi. 2000 milliards divisé par 8 mois. Ça fait à peu près 8 milliards 600 millions de dollars empruntés tous les jours. Tous les jours, week-end compris, jour férié compris, le 25 décembre aussi, mais aussi jeune voix. Divisez encore ça une fois et ça fait environ 100 000 dollars par seconde. Alors, juste 5 secondes de temps mort. Voilà, ça fait 500 000 dollars. Et le plus beau dans l'histoire, le plus beau, c'est le timing. Le jour exact où la dette passe les 40 000 milliards, le même jour, le secrétaire du Trésor, M. Scott Bessent, annonce qu'il va doubler ses rachats d'obligations pour calmer les taux d'intérêt. Traduction, l'État américain rachète sa propre dette pour faire croire que tout va bien, pendant qu'il continue à creuser le déficit de 2 000 milliards par année. Il y a un gérant obligataire qui a résumé ça d'une manière assez extraordinaire, donc je me permets juste de reprendre sa phrase. Il a dit que ce que fait le Trésor américain, c'est prendre de l'Ozempic en avalant en même temps 4000 calories par jour. Tu maigris sur le papier, mais tu grossis dans la vraie vie, et en plus, c'est toi qui fais le traitement. Alors, est-ce que la stratégie de Scott Bessent a marché? Mercredi, oui, elle a marché. Le Trésor annonce, les taux baissent, tout le monde respire, les experts ressortent le mot soulagement de la boîte à outils. On parle de rebond et tout va bien. Bon, ça a tenu à peu près 24 heures, hein, parce que jeudi, le taux à 10 ans américain remonte à 4,7%, le 30 ans à 5,25%, et on est de nouveau à un cheveu du plus haut niveau qu'on ait vu en 19 ans. Pourquoi tout ça? Eh bien, parce que le marché a fait un calcul assez basique, hein, 4 milliards de rachats par opération face à un marché du trésor américain qui se compte en dizaines de milliers de milliards, c'est un pansement sur une jambe de bois. Et surtout, ça ne réduit pas la dette, ça la déplace, ça la fait passer de la case long terme à la case court terme. C'est exactement ce que vous faites quand vous payez votre carte de crédit avec une autre carte de crédit. Le solde ne bouge pas, il change juste de tiroir. Et pendant ce temps-là, et c'est ça peut-être le vrai sujet dont personne ne parle assez, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed vient de tomber, on l'a vu mercredi soir, et nous apprenait que plusieurs gouverneurs sont prêts à monter les taux, et que beaucoup estiment qu'il faudra le faire si l'inflation ne redescend pas vers les 2%. Et pour que l'inflation redescende à 2%, avec un baril de pétrole qui grimpe tous les jours sans discontinuer depuis 2 semaines, il faudra soit un miracle, soit alors... Autre solution, demandez au bureau des statistiques, le fameux BLS, de recalculer les chiffres et de les écrire à l'encre sympathique. Mais alors, vraiment sympathique l'encre. Et attention, hein, parce que c'est pas qu'un problème américain. Le 30 ans français, il est à 4,9%, plus haut depuis 2008. Le 30 ans japonais dépasse les 4% pour la première fois de son histoire, du jamais vu depuis que le Japon émet de la dette. Et en Europe, on recommence carrément à parler de hausse des taux de la BCE pour le mois prochain. La planète entière emprunte plus cher, de plus en plus cher. En même temps, pour les mêmes raisons, trop de déficits, trop de pétrole qui monte et une montagne d'obligations à venir pour financer quoi ? Les data centers de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, on va redescendre du niveau macro et on va revenir au niveau caddie. Parce que la vraie histoire d'hier, elle est là. Walmart, le plus grand distributeur du monde, celui chez qui l'Amérique entière achète son papier toilette, ses couches, ses pneus, ses médicaments et ses brosses à dents, c'est le baromètre du consommateur américain. Et le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance américaine, n'oubliez jamais ça. Walmart s'est fait défenestrer de 9,2% hier. Sa pire séance depuis 2022. Alors attention! Attention, parce que sur le papier, c'est pas du tout un désastre. Le bénéfice bat les consensus, le consensus et les consensus, le chiffre d'affaires monte de presque 6%, le e-commerce cartonne de plus 24%, et la société relève même ses prévisions annuelles. Sauf, il y a une ligne, une seule ligne. Les ventes à magasins comparables aux États-Unis, plus 2,6%, alors qu'on attendait plus 3,8%. C'est la plus faible croissance depuis 6 ans. Et là, le directeur financier de Walmart a lâché la phrase qui fait quand même vachement mal. Il a dit « Il y a une pression qui augmente sur le consommateur par rapport au début de l'année à cause des prix des carburants qui sont plus élevés. » Voilà, on y arrive. Le carburant. Regardez le chiffre. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, les ménages américains ont dépensé 88 milliards de dollars de plus en essence et en diesel que ce qu'ils auraient dépensé sans le choc énergétique. 88 milliards, ça fait environ 650 dollars par foyer américain. 650 dollars qui sont littéralement partis en fumée, qui ne sont pas allés dans un canapé, pas allés dans un téléphone, pas allés dans des vacances ou dans un resto, qui sont partis dans un réservoir. Et les relevés officiels des prix à la pompe qui remontent à l'an 2000 montrent même qu'on n'a jamais vu un prix aussi haut, aussi tard dans l'année. Normalement, fin août, les prix commencent à redescendre. Cette année, non. Et puis alors, si vous voulez vraiment le signal qui fait vraiment froid dans le dos, il est même pas chez Walmart, il est chez Advance Auto Parts. Le vendeur de pièces détachées automobiles américain a perdu 24% juste dans la séance d'hier. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains ne réparent même plus leurs voitures. Et ça, dans mon métier, c'est un signal qu'on connaît. Quand quelqu'un arrête d'acheter un canapé, c'est de l'arbitrage. Quand quelqu'un arrête d'acheter des plaquettes de frein, c'est plus de l'arbitrage. C'est le budget qui craque ou c'est des envies de suicide. C'est la musique du film d'horreur qu'on vient de monter d'un seul cran. Et le détail qui me fait sourire jaune, sur les 45 analystes qui suivent Walmart, qui couvrent Walmart, après une claque de 9%, 38 sont toujours à l'achat. Il y a un seul vendeur, un seul sur 45. Si la récession finit par arriver, je vous laisse imaginer à quelle vitesse la foule va changer de côté. Bon, maintenant je vais vous raconter... l'histoire peut-être la plus dingue de la semaine, et vous allez comprendre pourquoi elle explique tout le reste. Mercredi, vous avez vu, Moderna a pris 177% en une séance. C'est le premier titre du S&P 500 à doubler en une seule journée depuis 2008. Jeudi, le lendemain, hier, Moderna se prenait 23,5% dans la figure. Sa pire séance de tous les temps. Meilleure performance de l'indice un jour, pire performance le lendemain, c'était plus arrivé depuis Oracle en septembre 2025. Et regardez la trajectoire complète, parce qu'elle est complètement démente. Le titre valait 56 dollars il y a encore quelques semaines, il a tapé 174 dollars mercredi soir, il est à 133 ce matin. On a connu des parcs d'attractions beaucoup moins excitants. L'essai clinique de phase 3 sur 1100 patients montre que le vaccin à ARN messager de Moderna, combiné au Keytruda de Merck, empêche mieux le mélanome de revenir que le Keytruda tout seul. C'est le premier succès de phase 3 pour un vaccin contre le cancer. Le premier de l'histoire de l'humanité. Et la technologie individualise le vaccin sur les mutations propres à la tumeur de chaque patient jusqu'à 34% de protéines anormales ciblées avec des effets secondaires minimes. Vous vous rendez compte? 34 protéines anormales ciblées! Oui, bon, moi non plus, je sais pas ce que c'est, ni ce que ça veut dire, mais ça a l'air vachement cool. À la fin, ça fait quand même 177% de performance sur le titre. Ça, ça n'est pas une histoire de bourse, c'est une histoire de gens qui ne rechutent pas et ça mérite qu'on se lève de sa chaise. Bon, moi je suis déjà debout. Mais les 177%, eux, n'ont rien à voir avec la médecine. Il y avait 13,7% du flottant de Moderna qui était vendu à découvert. En gros, il y avait une montagne de shorts sur le titre. Ça veut dire des gens qui avaient parié que le titre allait baisser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et quand t'as vendu du Moderna à 60$ et que ça vaut 56, t'es le roi du monde et tu penses que t'as enfin compris les marchés. T'as enfin réussi à jouer dans les marchés baissiers. Mais quand le lendemain matin, t'arrives au bureau et tu vois l'annonce de Moderna, tu sais que tu vas devoir te couvrir et que comme t'es pas le seul, tu sais aussi que ta journée va être pourrie et qu'en plus, tu vas te prendre la tôle de ta vie. Et puis alors, si le consommateur américain a des courbatures à force de serrer les fesses, pour toi ce soir, ça sera pire. Quand le titre a doublé, les gars qui étaient short se sont pris 5,5 milliards de dollars dans les dents en quelques heures. Et quand vous perdez 5,5 milliards dans la journée, votre gestionnaire de risque vous appelle et vous dit « Vends !» Et vous répondez « Ouais, mais je vends quoi ?»« Mais vends tout ce que tu peux vendre vite pour réduire la claque que t'es en train de te prendre !» Et qu'est-ce qu'on vend vite ? Ben, on vend pas ses positions pourries, personne n'en veut de toute façon. On vend ses meilleures positions, celles qui ont le plus monté. Celles qui sont liquides, celles qui sont à la mode, celles sur l'intelligence artificielle et les data centers. Et là, vous avez la mécanique complète de la journée d'hier. Les fonds quantitatifs ont vécu leur pire séance depuis plus de 2 ans. Il y a une des salles de marché aux États-Unis qui a parlé d'une journée de douleur de 9 sur 10 et d'un record absolu de rachat de positions short sur tout le secteur de la biotech. Donc écoutez bien ça, les valeurs technologiques n'ont pas baissé hier parce que quelqu'un a soudainement douté de l'intelligence artificielle. Elles ont baissé parce qu'un vaccin contre le cancer de la peau a fait exploser des types qui pariaient contre cette possibilité. C'est un jeu de domino. Un jeu de domino où personne ne sait qui a poussé le premier ni où va s'arrêter le dernier. Et où le prix de Nvidia peut dépendre d'un essai clinique sur un mélanome. Et ça, ça mérite qu'on y réfléchisse 2 secondes. Parce que si les mouvements les plus violents du marché ne viennent plus des fondamentaux mais du positionnement, ça veut dire qu'on ne peut plus rien anticiper. On peut juste subir. Alors dans ce paysage un peu déprimant, il y avait quand même une éclaircie hier. Le Bitcoin, plus 5% à plus de 72 000-73 000 dollars, au plus haut depuis fin mai. Coinbase, plus 7,5, Mara, plus 15,5 et American Bitcoin, la société cofondée par Eric Trump, plus 7%. La raison officielle de tout ça, c'est que mercredi, Donald Trump a réuni tous les patrons de la crypto à la Maison Blanche pour un grand meeting d'encouragement en faveur du Clarity Act. C'est ce texte de loi qui sortirait l'essentiel du trading crypto du droit des valeurs mobilières. Le marché a lu ça comme un feu vert. Il a liquidé 2,7 milliards de positions vendeuses dans la foulée, un record absolu, dont plus d'un milliard en l'espace d'une heure. Sauf qu'il y a un tout petit détail dans le dossier. Ce ne sont pas les républicains qui bloquent cette loi. Ce sont les démocrates. Et ce que les démocrates exigent pour la voter, c'est une clause obligeant le président à se séparer de ses intérêts personnels dans la crypto. Pourquoi ? Eh bien parce que d'après les déclarations officielles du mois de juillet, Donald Trump a encaissé plus d'1,4 milliard de dollars grâce aux affaires crypto-familiales. Donc résumons la scène 2 secondes. Le type qui fait campagne pour la loi, c'est celui qui gagne le plus d'argent si la loi passe. La seule chose qui empêche la loi de passer, c'est précisément qu'il gagne trop d'argent avec. Et le marché regarde tout ça et se dit « Ouais, super, on achète !» Bon. Par contre, de là à parler d'un conflit d'intérêts, il y a une frontière que je ne franchirai point, mais je peux vous dire que depuis là où je suis, on la voit quand même super bien. Et pendant ce temps-là, le pétrole continue de monter, le Brent est à 93,80 ce matin, 5e séance de hausse d'affilée, plus 7% sur la semaine. Trump nous promet toujours un D-Day économique à quiconque tendrait une bouée de sauvetage à Téhéran, sans jamais préciser ce qu'est une bouée de sauvetage, ni quels pays sont concernés. Ce qui est vachement pratique quand on veut menacer la Chine sans avoir à prononcer le mot Chine. Et la conséquence pour nous, elle n'est pas dans le graphique du baril, elle est dans le réservoir. Elle est dans le plein qui ne descend plus. Elle est dans la facture de mazout de cet hiver qu'il va bien falloir regarder en face. Elle est dans le gaz européen qui repasse au-dessus de 65€ le mégawatt-heure, avec des stocks remplis à 61%, leur plus bas niveau saisonnier jamais enregistré. Jamais en majuscule. Et là, j'arrive au truc le plus troublant de toutes ces histoires, c'est que les statistiques économiques américaines qui ont été publiées hier étaient bonnes. L'indice avancé du Conference Board rebondit alors qu'on attendait moins, le Philly Fed attendu en baisse remonte de 5 points et signe son meilleur niveau depuis avril 2021. Les inscriptions au chômage baissent, alors que le consensus attendait une hausse, l'emploi tient, l'activité tient, la récession n'est pas là. Et c'est exactement le problème. Parce qu'une économie solide avec un baril à 94$, ça ne vous donne pas une Fed qui est gentille, ça vous donne une Fed qui réfléchit à serrer la vis. Le marché a passé 6 mois à prier pour que l'économie ne s'effondre pas, son vœu vient d'être exaucé, c'est génial. Par contre, il vient de découvrir que c'est précisément ce qui fait monter les taux. C'est un peu le type qui prie pour la pluie pendant la sécheresse et qui se retrouve le lendemain avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse au fond de sa cave. Ce matin, les futurs sont plats après une semaine bien moche. Le S&P perd presque 2% sur la semaine, le Nasdaq 2,5%. En Asie, le Nikkei recule légèrement, Hong Kong grappille un peu. Et côté agenda, c'est un vendredi du mois d'août, donc c'est le désert. Les indices PMI préliminaires et puis c'est tout. Le vrai rendez-vous, il sera la semaine prochaine. Jackson Hole du 27 au 29 août et Nvidia qui publiera la semaine prochaine. Et Kevin Warsh, donc, sort à Jackson Hole. Le nouveau patron de la Fed va devoir expliquer devant la planète entière comment il compte gérer trois choses en même temps. Une inflation poussée par le pétrole, une dette à 40 000 milliards et un trésor qui fait la politique monétaire à sa place. Il avait demandé au marché de jouer le ballon plutôt que de jouer l'arbitre. C'est un super slogan. C'est juste un peu plus compliqué quand l'arbitre en question change les règles pendant le match. On nous a promis une Amérique great again. On a une Amérique qui emprunte 100 000 dollars par seconde, dont les habitants n'ont plus les moyens de changer leur plaquette de frein et où le prix de la plus grosse entreprise technologique du monde dépend d'un essai clinique sur un mélanome. C'est pas une crise, pas du tout, pas encore. C'est juste un système qui a arrêté de faire semblant d'avoir un sens. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va tous se relever lundi matin, remettre le café à chauffer, regarder les écrans et faire comme si tout ça était normal. Voilà, vous connaissez la musique, on like, on partage, on commente et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça, ça vous avertira quand le Swiss Bliss de demain sera publié. Passez un excellent week-end, faites le plein tant qu'il reste quelque chose sur la carte de crédit et on se retrouve lundi matin pour de nouveaux records de dettes et de nouvelles annonces de guerre économique totale. À demain, autrement pour ceux qui ont le courage d'y retourner, sinon ça sera donc lundi matin. Excellente journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.